Frères, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est toujours une joie, hein, sans comparaison, d'être ensemble pour étudier la parole de Dieu. Parce que c'est notre nourriture pour l'âme. Comme nous avons besoin à manger, à boire pour le corps, nous avons besoin aussi de la parole pour notre âme. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être ensemble pour étudier ta parole. Nous te demandons, Père, de pratiquer chaque jour cette parole afin que nous soyons bénis, car nous ne pouvons pas réussir, Seigneur, sans ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Et nous allons ouvrir ensemble avec moi et le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. De Timothée 4, verset 5. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Encore une fois. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Le sujet de notre prédication ce matin, c'est un ministère bien rempli. Un ministère bien rempli. Et la prédication de l'Évangile n'était jamais facile depuis la venue du Saint-Esprit. Et jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi Jésus, il disait à ses disciples, je vous envoie au milieu des loups. Soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Donc c'est une guerre que nous menons chaque jour, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Par beaucoup d'audace, les 12 disciples étaient parvenus à conquérir le monde par le message de l'Évangile. Mais c'était une mission périlleuse. Et malgré tout, ils parviennent à instaurer cette nouvelle dans le monde. Et cette mission est basée dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous avons une mission. Cette mission est précise, c'est d'annoncer la parole de Dieu au monde entier. Mais pour accomplir cette mission, ce n'est pas des tâches faciles. Il y avait toujours des difficultés qui sont jonchées sur la route. Paul considérait Timothée et Tite comme ses enfants légitimes dans la foi. Et il était leur mentor. Ça veut dire que c'est Paul qui les avait formés avant de les envoyer en mission. Donc le jeune pasteur Timothée devait expérimenter les souffrances qu'elle lui réserve la prédication de l'Évangile. Et voilà pourquoi Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Est-ce qu'il est facile de supporter les souffrances? Donc les apôtres qui nous précèdent ont connu des persécutions, des mauvais traitements, des emprisonnements et même des meurtres. Pour la seule cause de l'Évangile. Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu qu'est-ce qui se passe à travers le monde, en Asie, en Afrique, concernant ceux qui propagent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont perdu leur emploi. Et il y a des pays aujourd'hui, si on est chrétien, il faut accepter que ce soit écrit sur sa carte d'identité. C'était jamais facile. Mais malgré ces outrages, malgré ces atrocités, l'Évangile progresse d'âge en âge. Rien ne peut l'arrêter. Et l'Église est fortifiée par la toute-puissance du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, il avait fait cette déclaration à l'Église pour dire que je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quel que soit ce que vous faites, vous travaillez en vain si vous cherchez à détruire l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas. Et cette mission qui était très difficile, qui vous a permis de marcher sur des charbons ardents. Je vous dis ce matin, frères et sœurs, tout ce qui est noble est difficile. Paul nous exhorte au courage et à la fermeté par ces mots. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, Paul nous dit ce matin, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Ça veut dire que ce n'est pas avec violence qu'on va prêcher l'Évangile. C'est avec douceur. Si vous voulez faire passer le pilule de l'Évangile, il faut être doux. Parce qu'on ne va pas engendrer la violence par la violence. Si vous voulez faire passer le message de l'Évangile, il faut manifester d'abord l'amour. Parce que c'est l'amour qui détruit la haine. Je vous rappelle ce matin que nous sommes des soldats de Dieu, des athlètes et des laboureurs. Pour être couronnés, il faut aller jusqu'au bout. Nous avons vu récemment ce qui s'est passé à Rio. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12, Jésus dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc si vous ne voulez pas aller, eh bien vous êtes perdant. Paul dit, je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Est-ce que vous êtes comme ça ce matin, comme Paul? le comportement des membres de l'Église. C'est un autre problème pour bien remplir le ministère. Ce n'est pas facile de diriger les hommes. Et même Jésus, il avait des problèmes avec les hommes. Et c'est normal. Il est impossible de ne pas avoir des discussions, des disputes. Il n'est pas possible de ne pas avoir des prises de gueule quand il y a des femmes et des hommes dans un endroit. Il ne faut pas rêver. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas des blocs de ciment. On a des pensées. On a des opinions. Et c'est normal ce que Jésus il a dit. Pour bien remplir le ministère, il faut être sobre, modéré, tempérant, doux en toutes choses. Est-ce que vous êtes comme ça ce matin, mes frères et sœurs? Modéré, tempérant, doux, sage en toutes choses. L'Église est devenue aujourd'hui un parti où chacun de ses membres cherche à tirer leur épingle du jeu. Et voilà pourquoi il y a des clans au sein de l'Église. Il y a de la partisanerie au sein de l'Église. Il y a des partis pris au sein de l'Église. Il n'y a plus de modération, plus de respect, plus de soumission. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en nous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la paix. C'est la joie, la tempérance, la douceur, l'amour. Est-ce que vous avez ça dans votre vie? Et dans Jean chapitre 13, nous lisons Jean 13, 34 et 35. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais si nous nous mordons les uns les autres, ça ne va pas. Si nous nous parlons l'un contre l'autre, ça ne va pas. Ça veut dire que la mission a pris un coup, c'est un obstacle. Pour bien remplir notre ministère, l'Église doit être organisée et ordonnée. Regarde ce que Paul avait dit à Tite. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, verset 5. Paul dit à Tite: tu es chargé d'organiser l'Église, d'y établir des conducteurs fidèles et de lutter contre les fausses doctrines. Ah, ils sont beaucoup aujourd'hui ceux qui enseignent des fausses doctrines. Faux docteurs, faux prophètes, faux évangélistes, faux pasteurs. C'est la monnaie courante aujourd'hui. Dans leur fausse doctrine, ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Ils disent qu'on peut perdre le salut alors que le salut est éternel. Comment peut-on perdre quelque chose qui soit éternel? Ils disent, pour être sauvé, il faut baptiser d'eau. Non. Et les brigands qui étaient à la croix avec Jésus, ils sont sauvés. Ils disent qu'il faut que le Saint-Esprit soit manifesté en vous. Le jour même où vous avez reçu le salut de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Et il habite en vous éternellement. Et ces mauvaises doctrines détruisent l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi des gens, ils laissent ici pour aller là-bas, ils écoutent une autre chose. Ils laissent là-bas pour aller ici, ils écoutent une autre chose. Ils laissent ici pour aller ailleurs, ils écoutent une autre chose. Et finalement, on est où? Vous cherchez quelque chose qui est en vous. Vous cherchez quelque chose que vous possédez. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin est ici. Nulle part ailleurs. Et si vous avez la parole de Dieu en main, qu'est-ce que vous cherchez ailleurs? Dieu est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit, « Notre Dieu est un Dieu d'ordre. » Depuis la création, c'est un constat. Dans la nature la plus merveilleuse, c'est un constat. Les étoiles ne se rencontrent pas pour frapper l'un à l'autre. La mer, même quand tous les eaux du monde gonflent dans la mer est restée dans sa limite. Et si la mer pouvait envahir le monde, comment on serait? Le ciel qu'on voit soit le ciel bleu, peu importe. Et s'il voulait couvrir le monde, comment ça serait? Ça veut dire ce que Dieu a fait, il a tout fait dans l'ordre. Et pour bien remplir notre ministère, nous devons mettre un peu d'ordre dans notre vie aussi. Parce que nous ne pouvons pas agir comme nous voulons. Notre vie doit être une vie selon l'esprit. Car si nous marchons selon l'esprit, nous devons vivre aussi selon l'esprit. Il doit y avoir un peu d'ordre dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. S'il y a division, désobéissance, discorde ou séparation dans les couples, dans les familles, je vous assure que l'Église en subit les conséquences. Parce que l'Église est unie. Si tout est dans désordre à la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre, l'Église va être traité de la même façon. Parce que vous êtes membre de l'Église. On dit que la vie en France est résumée en trois mots. Métro, boulot, dodo. C'est comme ça? Ah, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Métro, boulot, dodo. Alors, avant de laisser la maison, est-ce que vous avez prié? Nous sommes tous chrétiens. Est-ce que vous avez prié avant de partir au boulot? Ah, il n'y a pas de temps, je suis fatigué. Pap, 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 pap. Métro. Arrivé au travail, au boulot, est-ce que vous avez prié? Pas de temps, puisque le patron ou bien le responsable, il regarde l'heure. Il faut faire ce que vous avez à faire. Est-ce que vous faites votre lit avant de partir? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre, et bien nous aussi, nous devons nous ordonner. Et alors? Vous êtes beau ou belle comme la lune et le soleil, chic comme des mariés dans la rue. Est-ce que tout est ordonné à la maison? Hein? Dieu, il prend plaisir dans ça, hein? Parce que si tout va bien à la maison, tout va bien ici. C'est normal. C'est une pratique, c'est une habitude, c'est une culture. Les jeunes aînés, les ados, avez-vous fait un peu de ménage dans votre chambre avant de partir? Les canettes vides que vous avez bu, les flacons d'eau, les flacons de jus de Coca-Cola, les boîtes de gâteaux qui décorent votre maison ne sont pas un bon parfum, un parfum de bonne odeur. Est-ce qu'il y a l'ordre dans votre chambre? Frère et soeur, Dieu, il est aussi intéressé à notre vie sociale. Alors, il faut nettoyer votre chambre, mettez un peu de fraîcheur. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Parce que votre grâce que vous avez ce matin, c'est que vous avez une chambre pour toute seule. Mais vous n'imaginez jamais qu'il y a dans une chambre, il y a 10 personnes. C'est une vérité, hein, ce que je vous dis là. C'est pourquoi le nettoyage à l'église est négligé. C'est normal. Mais je vous dis une chose. Le respect ou la charité bien ordonnée commence par soi-même. S'il n'y a rien qui est fait chez soi ou bien en soi, l'Église, il est victime. Dieu a établi dans l'Église des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 et verset 12. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et pour édifier son peuple. Dieu nous aime. Il fait provision des dons spirituels. Il n'y a personne ici ce matin qui ne puisse faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous avons tous un don en nous. Regardons ce que Paul dit à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tout. Le travail de l'Évangile, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe dans le ministère. Et nous allons continuer à le voir. Regardez verset 13 du chapitre 12 dans 1 Corinthiens. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre nous aujourd'hui? Non, à l'église de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Et c'est prouvé là. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de vous. Nous sommes membres les uns les autres. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. L'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous sommes membres tous les uns les autres. Et c'est dans la communion fraternelle que l'Église peut bien remplir son ministère. Si nous sommes divisés, il faut rester là, hein, résoudre les problèmes avant de partir. Dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée 2, versets 24 à 26. 2 Timothée 2, 24 à 26. Paul dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Ça veut dire la patience, c'est le support. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça veut dire, quand il y a ce type de discorde dans l'église, ça fait la joie de Satan. Parce que c'est Satan qui veut nous diviser pour qu'il règne. Et si nous nous laissons traîné par ce piège, eh bien, Satan, il nous attrape. Nous devons rester unis. Et quand nous sommes unis, nous sommes forts. Je crois que c'est les Romains qui disaient, les cinq doigts fermés sont forts. Et c'est un bon exemple. Regarde. Dans Actes chapitre 2, verset 42, l'auteur écrit, il dit que ceux qui acceptaient la parole de Dieu, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les mercredis du soir, on est en train d'étudier Jacques. On peut compter 1, 2, 3, 4. Les habitués. L'Église n'est pas intéressée à la parole de Dieu, à l'enseignement des apôtres. Pendant la réunion de prière, on peut compter tous les habitués. Ce sont les mêmes visages. Alors, notre ministère de la prière, comment ça marche? Ça ne vous intéresse pas de venir dans les réunions de prière pour prier, soit pour vous, soit pour les autres, d'intercéder pour les autres. Paul dit que dans l'Église, que tout se fasse avec l'ordre et la bienséance. Tout se fasse avec l'ordre et la bienséance. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Dieu nous demande d'avoir une conduite sociale en accord avec les usages et respecter certaines formes. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu comme nous voulons. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17, Paul dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ces œuvres-là s'étaient préparées avant par Dieu. Et Paul l'a répété dans notre texte de base. Il dit à Timothée: fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres. Avant d'offrir un service à Dieu, il faut bien préparer. Il faut bien faire et il faut bien présenter. Parce que c'est à un être suprême que nous allons présenter cette offrande. Regardez dans Romains chapitre 12, verset 7 et verset 8. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu est un Dieu d'ordre, hein, et qui et pratique aussi tout ce qui est bien, tout ce qui est aimable. Alors, en vertu de tout ça, il y a la bénédiction pour nous. Lorsque nous avons bien rempli notre ministère, il y a bénédiction. Et si vous voulez avoir des bénédictions de Dieu, il faut travailler pour lui. Il faut bien remplir votre ministère. Et alors, ce matin, vous êtes attaché dans quel ministère à l'église? Hein? Au culte des enfants? Le club Awana? Le club des ados? Jeunes aînés? Musique sacrée? Service d'accueil? Nettoyage, groupe de femmes, groupe d'hommes, diaconat, corps du conseil, pastorat. Le sage Salomon dit dans Proverbe 18, verset 9, « Celui qui néglige le travail de Dieu est frère de celui qui détruit. » Vous avez une responsabilité, hein? L'un à l'autre et tout pour la gloire de Dieu, pour le perfectionnement des saints. Donc, si vous négligez la plus petite chose dans la maison de Dieu, ça veut dire vous méprisez Dieu. Parce que vous ne faites rien ici pour passer à l'do, pour X ou bien pour Y. Vous faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que votre ministère est bien rempli? Avez-vous fait l'œuvre d'un évangéliste? Je vous assure que les bénédictions de Dieu sont réservées à vous. Regardez ce qu'il dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ça veut dire, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Attachez-vous au ministère de l'Évangile et remplis bien ton ministère. C'est les mots d'ordre que nous avons ce matin et que Dieu vous bénisse. Amen.